Laudetur Jesus Christus.
Les talibans poursuivent leur conquête de l'Afghanistan à la faveur du retrait américain. Les ambassades britanniques et américaines à Kaboul les accusent d'avoir massacré des dizaines de civils dans le sud du pays. On y revient juste après les titres. La Pologne a accordé un visa humanitaire à une athlète biélorusse qui participe actuellement aux JO de Tokyo. Elle avait déclaré se sentir menacée de rentrer de force dans son pays. La Grèce connaît une vague de chaleur sans précédent depuis plus de 30 ans. Le mercure a atteint 45 degrés hier dans certaines régions, augmentant les risques d'incendie. Éclairage dans quelques instants. Et puis dans notre dossier, nous reviendrons sur la situation au Mozambique, dans la province de Cabo Delgado. Des groupes djihadistes ayant prêté allégeance à l'État islamique y étendent leur emprise. Témoignage du père Angelo Romano de la communauté de Sant'Egidio à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Hélène Détombe.
Bonjour, y a-t-il en ce moment des crimes de guerre en Afghanistan ? C'est ce qu'affirment Londres et Washington qui accusent les talibans, de plus en plus puissants dans le pays, de massacres de dizaines de civils en guise de représailles. Ces informations émanent des ambassades américaines et britanniques à Kaboul et concerneraient le district de Spindoldak dans le sud, à la frontière avec le Pakistan, Delphine Heller.
Exactement, Hélène, et non des moindres, car cette région tombée aux mains des insurgés le 14 juillet est le deuxième plus important point de passage entre l'Afghanistan et le Pakistan. Ces meurtres, susceptibles de constituer des crimes de guerre, doivent faire l'objet d'enquêtes et les chefs talibans responsables doivent rendre des comptes, affirment les deux ambassades sur leurs comptes Twitter respectifs, ironisant face aux fondamentalistes islamistes. Si vous n'êtes pas capable de contrôler vos combattants maintenant, vous n'avez rien à faire au gouvernement plus tard. Dans un rapport, la commission afghane indépendante des droits de l'homme relève, elle, avoir découvert qu'à après avoir pris le district en question, les talibans ont identifié responsables gouvernementaux passés et présents et tué les gens n'ayant aucun rôle combattant. 40 personnes auraient ainsi été assassinées, un nombre qui pourrait s'avérer supérieur au fil des enquêtes. Les domiciles des civils qui servent aux talibans de boucliers ont aussi été pillés. Sur le front, les forces afghanes de leur côté continuent les combats au sud pour empêcher qu'une première capitale provinciale ne bascule, ce qui serait, Hélène, un désastre stratégique et psychologique pour l'armée de Kaboul et une grande partie de la population.
Merci Delphine pour toutes ces précisions. Les États-Unis, qui achèvent leur retrait du pays, se sont engagés hier à accueillir des milliers d'Afghans ayant travaillé avec eux. Ils pourront bénéficier des programmes d'admission de réfugiés aux États-Unis. Deux premiers groupes de 400 personnes sont arrivés sur le sol américain depuis vendredi dernier. Washington intervient dans l'affaire du pétrolier attaqué en mer d'Oman. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, promet une réponse collective dénonçant l'attitude irresponsable de l'Iran. Téhéran a démenti tout lien avec l'attaque survenue jeudi dernier contre le pétrolier géré par la société d'un milliardaire israélien qui a fait 2 morts et évoque une riposte pour protéger sa sécurité après les menaces d'Israël et des États-Unis. C'est dans ce contexte que le nouveau président iranien, Ebrahim Raisi, prendra ses fonctions aujourd'hui. Il succède à Hassan Rouhani. La Pologne a octroyé un visa humanitaire à Kristina Timanovskaya, cette athlète biélorusse que le régime tentait de rapatrier de force depuis les Jeux Olympiques, a passé la nuit de dimanche à lundi dans un hôtel près de l'aéroport et devrait rester à l'ambassade de Pologne à Tokyo jusqu'à son départ demain probablement. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
C'est le ministre polonais des Affaires étrangères qui l'a confirmé hier. Kristina Timanovskaya est en contact avec des diplomates polonais à Tokyo. Il a précisé que Varsovie ferait tout ce qui est nécessaire pour que cette sprinteuse poursuive sa carrière sportive. Dimanche, elle avait annoncé via Instagram que le régime tentait de la ramener de force en Biélorussie au motif qu'elle avait critiqué les choix de ses entraîneurs de l'engager sur le 4x400 mètres alors que ce n'était pas prévu et qu'il ne l'avait pas averti de ce changement. Mais il faut dire aussi que Kristina Timanovskaya fait partie des milliers milliers d'athlètes bélarusses qui ont signé une lettre ouverte réclamant de nouvelles élections et la libération des prisonniers politiques. Son mari, qui a fui la Biélorussie et qui espère rejoindre sa femme prochainement, a confié à l'AFP que le couple n'y était plus en sécurité. Le Comité international olympique, qui a joué un rôle actif dans cette affaire, a réclamé un rapport complet et détaillé au Comité olympique bélarusse sur cet incident, un comité national que préside le fils du président Alexandre Loukachenko. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
Et un militant bélarusse, Vitali Tchitchov, responsable d'une ONG en Ukraine qui était portée disparue depuis hier à Kiev, a été retrouvé pendu dans un parc de la ville. La police a ouvert une enquête pour meurtre. La cyberattaque contre le site de la région de Rome est toujours en cours. La situation est très grave, a déclaré hier le président du Latium, Nicola Zingaretti. Cette attaque, lancée depuis l'étranger dans la nuit de samedi à dimanche, a notamment mis à l'arrêt les réservations de vaccination contre le coronavirus. Le thermomètre ne cesse de monter en Grèce. Le pays connaît actuellement un épisode caniculaire avec des températures qui avoisinent les 45 degrés dans certaines régions. Les autorités évoquent une vague de chaleur inédite depuis 30 ans. À Athènes, la capitale, les habitants et les touristes ont déserté les rues. Les précisions d'Alexia Kefalas.
Depuis 24 heures, les rues d'Athènes sont désertes et autour des sites archéologiques comme l'Acropole ou le temple de Zeus, le calme règne. D'ailleurs, ces sites sont fermés toute la journée au public en raison de la canicule. L'image est inédite, voire surréaliste en plein mois d'août, au pic de la saison touristique. Avec des températures qui pourraient dépasser les 44 degrés ce midi, la Grèce affronte la pire vague de chaleur qu'elle ait connue depuis 1987. À l'époque, il n'y avait pas de climatisation et la pollution atmosphérique était telle que cette canicule avait fait plus d'un millier de morts. Cette fois, malgré les coupures d'électricité fréquentes dans tout le pays, il n'y a pas de victimes de la chaleur. Mais la catastrophe est écologique. Les fortes températures et les vents violents ont déclenché et attisent des dizaines d'incendies à travers le pays, et notamment sur l'île de Rhodes, où des villages touristiques ont été évacués. Pas de victimes à déplorer, mais le danger est croissant. Le ministère de la Protection civile estime que le risque de départ d'incendie est maximal pour ces prochains jours. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
Des incendies également en Turquie. Depuis mercredi dernier, les pompiers combattent des feux de forêt meurtriers dans le sud du pays. Le bilan s'est alourdi à 8 morts et plusieurs centaines de blessés. Dans plusieurs stations balnéaires de la côte méditerranéenne, des habitants et des milliers de voyageurs ont dû être évacués de leur domicile et de leur hôtel. Des enquêtes ont été ouvertes pour déterminer les causes de ces incendies. Mais dans la presse et sur les réseaux sociaux, les rumeurs se multiplient. Elles accusent les combattants kurdes d'être responsables des feux de forêt. À Istanbul, Anand Lower.
Pour beaucoup de médias turcs, le responsable des feux de forêt est tout désigné, le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, en guerre contre l'État depuis près de 40 ans. Ces accusations relayées sur les réseaux sociaux font monter la tension dans les régions les plus touchées, où l'on a vu ces derniers jours des tentatives de lynchage contre des incendiaires présumés et des civils en armes monter la garde, selon leur dire, sur les routes menant aux forêts. La communication officielle n'aide pas à calmer les rumeurs. D'un côté, les autorités répètent que des enquêtes sont en cours et mettent en garde contre la désinformation, notamment les fausses vidéos censées démontrer l'origine criminelle des flammes. De l'autre, le président Erdogan a laissé entendre que certains incendies seraient liés au terrorisme et les médias proches du pouvoir rappellent que le groupe armé kurde a revendiqué par le passé de nombreux feux de forêt. Cette cacophonie crée un paradoxe. Alors que le gouvernement martèle depuis des mois que le PKK est à genoux sous l'effet des opérations antiterroristes en Turquie, ces rumeurs donnent l'image d'un groupe suffisamment puissant pour déclencher en quelques jours des incendies dans plus d'un tiers des provinces du pays. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican.
Paris souhaite mobiliser 357 millions de dollars d'aide d'urgence en faveur du Liban. Un an après l'explosion sur le port de Beyrouth, le 4 août 2020, le président français Emmanuel Macron présidera demain une conférence internationale de soutien au peuple libanais avec la participation d'une quarantaine d'États et d'organisations internationales. La France veut partager le deuil des Libanais tout en accentuant la pression sur la classe politique, a souligné hier la présidence française. Haïti s'enfonce dans le chaos, aux prises avec la violence des gangs. En raison d'une insécurité croissante, l'ONG Médecins sans frontières a été contrainte de se retirer d'un quartier populaire de Port-au-Prince, la capitale. Ses activités à Martissant concernaient une population d'environ 300 000 personnes. Et puis avant de passer à notre dossier, sachez que la physicienne canadienne Donateo Strickland, lauréate du prix Nobel de physique en 2018, a été nommée hier par le pape François, membre ordinaire de l'Académie pontificale des sciences. Toutes les précisions à l'adresse vaticannews.va. Des groupes djihadistes poursuivent leur offensive au Mozambique dans la province de Cabo Delgado. Ils sont présents depuis fin 2017 dans cette région frontalière de la Tanzanie et ont prêté allégeance à l'État islamique il y a plus de 2 ans. Les actions terroristes ont fait 400 000 déplacés, dont 75% de femmes et d'enfants, et provoqué une crise humanitaire majeure. L'Afrique du Sud a annoncé la semaine dernière l'envoi de 1500 militaires au Mozambique pour soutenir les autorités. Un déploiement qui fait suite à l'annonce en juin dernier d'une mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe. Mais la solution à la crise ne sera pas seulement militaire, observe le père Angelo Romano du Bureau des relations internationales de la Communauté de Sant'Egidio. Il analyse la crise actuelle et exhorte à la solidarité.
La situation du Mozambique, on parle trop peu du Mozambique, surtout dans l'opinion publique, et les conséquences tragiques que ce conflit a sur la population civile. Disons, l'évaluation des réfugiés internes au Mozambique, plus ou moins 400 000 personnes, et 75% c'est femmes et enfants. Donc c'est tout un peuple qui fuit la guerre. Il y a toute une activité internationale maintenant d'assistance militaire. Mais nous pensons, nous sommes convaincus que c'est nécessaire un effort de solidarité. La solution à la crise ne sera pas seulement une solution militaire.
Quels sont donc les autres domaines sur lesquels il est important d'intervenir?
C'est le domaine social. Car nous avons une région traumatisée maintenant, des gens qui ont tout perdu. Il faut faire des investissements dans l'éducation. Surtout, reconstruire la confiance entre ces populations et l'État.
Les exactions des djihadistes ont débuté il y a 4 ans dans la province de Cabo Delgado. Aujourd'hui, qui sont ces groupes?
La population les appelle les Shabab. C'est un groupe d'extrémistes islamiques qui a prêté allégeance à l'État islamique il y a déjà plus ou moins 2 ans. Et les relations avec les réseaux de l'État islamique n'est pas claire. Mais c'est sûr que la propagande de l'État islamique utilise beaucoup leurs actions pour dire qu'ils sont en train de gagner du terrain. C'est sûr que des prêcheurs extrémistes ont trouvé l'écoute, surtout de certaines couches de la population de Cabo Delgado, surtout entre certains jeunes.
C'est le manque de perspective pour les jeunes qui les attire vers ces groupes djihadistes?
C'est la perception d'être marginalisé, de ne pas avoir de perspectives possibles vis-à-vis d'une région qui aujourd'hui est au centre des grands projets d'exploitation des ressources minières, surtout gazières. La prédication extrémiste a été dénoncée en premier lieu par les autorités musulmanes de Cabo Delgado, mais ça n'a pas empêché, disons, à cette petite réalité de se transformer dans une rébellion et après de devenir aujourd'hui une véritable menace, pas seulement pour le Mozambique, mais aussi pour les pays de la sous-région.
L'objectif de ces groupes djihadistes est de s'emparer du pouvoir en multipliant les violences et en détruisant le tissu social?
Effectivement, les pas de la rébellion ont suivi un peu la méthode de l'État islamique déjà appliquée en Irak, en Syrie et aussi en Libye et dans le Sahel. Donc on commence par à s'installer dans une région la plus oubliée de l'État. On cherche de créer une vide à remplir avec des nouvelles institutions créées à l'intérieur de l'État islamique pour créer une nouvelle réalité sociale et étatique.
Les évêques du Mozambique ont dénoncé lors de leur dernière assemblée en avril dernier une situation tragique dans la province de Cabo Delgado. Quelle est l'action de l'Église auprès des populations?
L'Église fait beaucoup de choses. La communauté de Sant'Egidio aussi est présente. on cherche de permettre le soutien à ces familles de réfugiés internes et de donner des bourses d'études pour des adolescents, des jeunes qui ont dû quitter l'école parce qu'ils se sont déplacés. L'Église est présente et à côté de tous les réfugiés sans distinction. Et je pense que ça, l'instrument meilleur pour construire le futur de cette région et pour ne pas permettre que les terroristes puissent totalement détruire le tissu social de cette région.
C'était le père Angelo Romano du Bureau des Relations Internationales de la communauté de Sant'Egidio. Il était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de votre écoute. Je vous donne rendez-vous à 13h. Je vous souhaite une très belle matinée. Au revoir.